demander ce qui fait une bonne histoire, et vous avez raison, ça peut être très utile dans certaines situations, pour écrire un film ou un roman, mais aussi pour épater vos amis, pour faire plaisir à vos enfants, pour vous convaincre que vous avez une belle vie. Mais moi, je vous conseille Les Mille et Une Nuits, qui est ce recueil d'histoires qui ont été racontées, transmises à l'oral, passées de génération en génération, parfois écrites, parfois traduites, puis adaptées dans une multitude de versions. Ce qui nous donne une première leçon, une bonne histoire, avant d'être écrite, elle doit être dite, et si possible à voix haute. C'est tout l'enjeu des Mille et Une Nuits qui raconte, souvenez-vous, le stratagème que Scheherazade met en place avec sa sœur pour sauver sa peau. Le sultan, qui a assez mal vécu le fait d'être trompé, décide d'épouser chaque jour une nouvelle femme qu'il fait assassiner le lendemain. Alors c'est un problème, parce que si ça continue, tout le monde va crever. Scheherazade a une idée. Elle se porte volontaire et mise tout sur une histoire qu'elle va raconter au sultan. Deuxième leçon, sans vous mettre la pression, une histoire pour qu'elle soit bonne doit être une question de vie ou de mort. Et la tactique de Scheherazade consiste, vous vous souvenez, à ne jamais terminer son histoire, à l'arrêter au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où on a envie de savoir la suite. Si le sultan la tue, il n'aura jamais la fin du récit, alors il lui donne un sursis. Troisième leçon des Mille et Une Nuits qui ont quand même inventé le suspense, une bonne histoire implique de prendre son temps, il faut savoir traîner pour être captivant.
Boomerang à Cannes.
Cannes est, pour moi, le véritable festival du monde.
Augustin Trapenard, sur France Inter.
Boomerang. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il un bon conteur? C'est l'un des comédiens les plus charismatiques, mystérieux et sexy de ces 10 dernières années. Vous l'avez vu dans Luther ou dans The Wire, sur votre petit écran, mais également sur Le Grand, aussi à l'aise en super-héros dans les Avengers des studios Marvel qu'en agent d'élite dans Fast and Furious ou en Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté. On le retrouvait vendredi dernier dans 3000 ans à t'attendre de George Miller, présenté hors compétition au Festival de Cannes. Il y joue le rôle d'un djinn, c'est-à-dire d'un génie, qui propose à une femme pour le moins méfiante d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Quelque part, entre Les Mille et Une Nuits et La Machine à remonter le temps. Bonjour Idriss Elba.
Bonjour.
Je me suis demandé qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous, à quoi ça tient? Parce que le film de George Miller est un film sur l'art de raconter des histoires.
Oui, c'est un film sur l'art de raconter des histoires. Et je crois qu'une bonne histoire, c'est celle que vous écoutez et vous vous imaginez dedans. Tous vos sens sont aux aguets, vous riez, vous pleurez. Une bonne histoire, elle vous rend impatient de connaître la suite. Et alors ? George Miller, il connaît très bien cet art de raconter des histoires, mais ce film-là bouscule aussi pas mal les conventions.
Il paraît que votre père vous a beaucoup inspiré pour ce film. Quel conteur est-ce qu'il était, votre père ?
Mon père est un conteur fantastique. Il aime souligner l'ironie des situations. Laisse-moi te raconter toute l'ironie de la chose. Il racontait avec beaucoup de détails. Il adorait aussi marquer des silences. Qui nous faisait dire « Ah, et alors ?» Et alors la suite ?» Et alors voilà ce qui arriva. C'était un grand conteur, il me faisait rire.
Alors quel genre d'histoire est-ce qu'il vous racontait ? On veut savoir, nous.
Il y en a une dont je me souviens. Quand j'étais petit, il m'a raconté que dans le village dans lequel il était né, un jour la police est arrivée avec la photo d'une jeune fille et en la montrant à tout le monde. « Avez-vous vu déjà cette fille ?» Et lui, il répond, oui, je reconnais cette fille. Je l'ai prise en voiture. Tout le monde faisait ça à l'époque. Les gens faisaient d'autostop sur la route pour se rapprocher de leur destination. C'était un soir, pas très tard. Il rentrait depuis Freetown vers son village. Et donc, il reconnaît la fille qu'il a prise en stop. Il raconte aux policiers comment ça s'est passé. Elle est montée dans la voiture. Je lui dis salut. Elle avait l'air contrariée, un peu timide, gênée. Elle parlait pas. Je lui demande, vous allez où? Et elle lui répond, oh, ben, laissez-moi par là. Et donc, après 4-5 kilomètres, il la dépose. Il lui dit au revoir, il s'en va. Et puis, 5 kilomètres plus loin, en approchant de son village, il y a un pont. Et à ce moment-là, le jour est tombé, le soleil se couche. Et donc, il traverse le pont et au volant, sur le pont, il la voit là, la fille. Elle est debout. Et elle regarde l'eau en bas.
C'est une histoire de fantôme.
Et là, il se dit, mais c'est elle. Il raconte ça aux policiers qui lui répondent, OK. Parce que 2 semaines après, il l'avait retrouvée morte.
Wow. Idriss Elba, au fond, pourquoi a-t-on tant besoin qu'on nous en raconte des histoires? Pourquoi est-ce un besoin si fort, si profond, quel que soit notre âge d'ailleurs?
J'ai l'impression que c'est important parce que notre cerveau apprend toujours. Il n'a pas de limite. On garde toujours la capacité d'assimiler à n'importe quel âge. De la naissance jusqu'à la mort, on acquiert des connaissances. C'est possible. Et les histoires, elles servent à ça. Elles nous apprennent des choses à vous, à moi. Je vous raconte ma journée, là je vous ai raconté l'histoire de mon père. Vous avez appris quelque chose. C'est important pour les êtres humains, pour la société, pour vous et pour moi, de nous comprendre. On ne se ressemble pas, mais quand je vous raconte une histoire qui vous parle, ça nous rapproche.
C'est intéressant parce que dans le film 3000 ans à t'attendre, votre personnage de Jean raconte son histoire pour convaincre celle qui l'a trouvée de le libérer du sortilège qu'il tient captif, enfermé dans une fiole. Si j'étais moi aussi un Jean, ce qui est probable, entre nous, quel serait votre premier vœu ?
Mon premier vœu serait d'avoir une réponse intéressante à votre question. Mon deuxième vœu, que les humains se considèrent tous comme égaux, peu importe l'âge, la couleur de peau, la religion, le sexe. Mon troisième vœu, une Ferrari. S'il vous plaît.
Devenir acteur, Idriss Elba, quand est-ce que c'est devenu un rêve, pour le coup, un désir, un souhait?
Je devais avoir 9 ans. Ma mère me laissait aller au cinéma le samedi après-midi. Elle me donnait des sous. C'était pas loin. J'y allais à pied avec mes copains et on allait voir des films. Je me souviens un jour, il passait un téléfilm de Spider-Man. Et je me souviens d'une scène avec Spider-Man où l'acteur rampe à quatre pattes comme ça et l'angle de la caméra nous fait croire qu'il grimpe le long du mur.
Magnifique.
Et je me souviens avoir penché la tête comme ça pour comprendre. Voilà, j'ai pigé le truc. Et c'est là que j'ai décidé de travailler dans le monde du cinéma. J'avais envie de faire semblant.
En tout cas, parmi tous les autres rôles qui ont pu compter pour vous, moi je pense d'abord à celui-là.
I have cherished the ideal of a free society. It is an ideal for which I am prepared to die. Amanda!
People have taken away half of my life. Just open the gate and let me go. I have walked a long walk to freedom.
Nelson Mandela, Idriss Elba, que vous incarnez dans Un long chemin vers la liberté, qu'est-ce qui représentait pour vous Mandela?
C'était énorme. C'est un rôle qui a changé ma carrière. J'ai trouvé que ça avait du sens, que c'était utile en tant qu'acteur. C'était important d'incarner la vie de Mandela au cinéma. Et que je sois, moi, choisi pour ça, c'était « wow, je suis comédien, mais j'appartiens aussi à mon temps. Je participe à l'histoire avec un grand H, un peu comme un historien. Mandela, pour mon père, c'était celui qui s'était vraiment battu pour la liberté, qui s'était battu pour les Noirs. À un moment, on était persécutés, et que personne ne voulait s'en mêler. Mandela était un symbole. Mon père était tellement fier et ému par ça. Quand je lui ai appris que j'allais interpréter Mandela, il a pleuré. C'était un rôle tellement important.
Vous savez, je repense au titre de ce film, qui est aussi celui de l'autobiographie de Mandela, Un long chemin vers la liberté. Je me suis demandé quel chemin faut-il emprunter pour accéder à la liberté en tant qu'acteur.
La liberté pour un acteur, c'est de ne pas avoir peur d'accepter les rôles qui ne sont pas ceux que le public attend de vous. Et c'est pas facile, c'est compliqué. Parfois, on a envie de répondre aux attentes, c'est plus facile. Mais être libre, c'est dire je vais tenter l'imprévu et vous, vous allez y croire en ce personnage. Et ça pour moi c'est essentiel. J'ai pas envie d'être abonné au même rôle tout le temps. J'ai pas envie de jouer les dealers comme ça. C'est tous les jours autant être dealer. C'est important de garder la liberté de faire plein de choses.
Ah, c'est intéressant en tout cas, parce que cette question de la liberté, elle est aussi centrale pour votre personnage de Jean dans 3000 ans à t'attendre. Ça veut dire quoi pour vous être un homme libre, Idris Elba?
La liberté, c'est un droit que j'ai en tant qu'être humain.
It means to be able to travel,
la liberté de voyager
anywhere in the world,
partout dans le monde.
It means to be able to learn,
apprendre
anything,
toutes choses,
language,
les langues, les techniques.
It means to be able to
la liberté d'exprimer mes opinions
in any format,
comme je le veux.
C'est un privilège.
It's a privilege, yeah.
But it's oui, c'est un privilège.
My right,
mais c'est aussi mon droit
as a human being,
en tant qu'être humain.
Free.
D'être libre, c'est un droit.
Celle qui est libre dans cette émission, peut-être un peu trop d'ailleurs, vous la connaissez, Idris, c'est la culture. Et son actualité libertine est si fragile qu'on lui prend la main. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 26 mai?
Je ne sais pas si je suis inclassable, mais je suis inclassé.
L'éditeur Pierre Belfond, fondateur de la maison d'édition qui porte son nom, est mort mardi. Il avait 88 ans. Amorcé en 1963, l'aventure Belfond avait commencé avec la réédition de classiques français avant de prendre un tournant décisif à partir des années 70 et la publication de textes étrangers à succès comme Love Machine de Jacqueline Suzanne, Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough ou encore Scarlett de Margaret Mitchell, la suite d'Autant en emporte le vent. Pierre Belfond restera comme l'éditeur français du Nigérian Wole Soyinka, premier écrivain africain prix Nobel de littérature. Viens voir les comédiens du côté de Montpellier jusqu'au 25 juin. La ville de l'Hérault accueille la 36e édition du bouillonnant printemps des comédiens avec près de 35 propositions, des rencontres, des concerts, des cabinets de curiosité. La manifestation célèbre l'amitié franco-allemande en réunissant les acteurs de la comédie française et ceux des théâtres berlinois et fête les 400 ans de la naissance de Molière. On pourra notamment y applaudir Odie Proie par Éric Lacascade, Tartuffe par Ivo Vanov et La troupe du français ou Histoire de la littérature allemande par Julien Gosselin. À la bien. Mark Ronson, Damon Albarn, Nick Cave, Beck et plus de 240 artistes internationaux. C'est la liste complètement folle des talents réunis sur For the Birds, The Bird Song Project, une gigantesque compilation musicale inspirée par et pour les oiseaux, avec près de 250 morceaux répartis en 5 volumes et 20 albums qui sortiront progressivement d'ici septembre. Le projet a été pensé pour soutenir la National Audubon Society, un organisme qui défend les oiseaux d'Amérique du Nord face à la menace écologique qui pèse sur eux. En France, par exemple, on estime que la population globale des volatiles a baissé de 30% en 30 ans. Et enfin l'événement aujourd'hui à Cannes, c'est incontestablement la projection hors compétition de Salam, le documentaire très attendu de la reine des reines du rap français, le diamant brut Diams, signé par l'ancienne rappeuse elle-même, Ouda Benyamina et Anne Cissé. Le film revient sur les fêlures de l'icône hip-hop des années 2000, ses blessures et la paix retrouvée, si c'était le dernier. L'acteur britannique Idris Elba, invité de Boomerang ce matin pour 3000 ans à t'attendre, présenté en fin de semaine dernière hors compétition au Festival de Cannes, un film de George Miller, génial créateur de Mad Max, qui nous fait voyager dans le temps, dans l'espace, des rives du bassin méditerranéen et de la mer Noire jusqu'à Londres. Au fond, à quel monde le cinéma nous permet-il d'accéder ?
Oh man, so many.
Alors là, il y en a tant, j'ai tourné des films tellement différents. Quand vous êtes dans Star Trek, et puis après dans Beast of No Nation, ce sont des univers très différents.
Et puis un chat.
Ouais. J'ai déjà joué deux chats. C'est comme le voyage dans le temps. On passe d'une réalité à une autre.
Le cinéma, quelle place avait-il dans votre famille?
Vous n'allez pas me croire, mais ma mère est fan de cinéma. Les films nigérians, c'est ce qu'elle préfère. Elle adore les soaps, les feuilletons. Un de mes premiers rôles, c'était dans un feuilleton, Family Affairs. Et ma mère était aux anges de me voir dans un feuilleton.
Et en tant que spectateur et aspirant comédien, quelle a été la performance d'acteur au cinéma qui vous a le plus profondément marqué? Je vous ai parfois entendu parler de Taxi Driver.
Oui, Taxi Driver a eu beaucoup d'impact sur moi. Je voyais jusqu'où Robert De Niro était prêt à aller pour devenir son personnage. Moi, je suis un copieur. Vous me montrez un truc et je l'imite. Je suis pas tellement le genre à vivre sa vie pour jouer le personnage. Mais j'admire le talent. J'admire ce que ça apporte à notre art. Chez moi, c'est cette partie du cerveau qui apprend et qui s'implique, qui est très active chez moi. Si vous m'apprenez à fabriquer des bouteilles, moi je vais apprendre, et dans le film, vous me prendrez pour un pro.
Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
Au fond, qu'est-ce qui fait pour vous une grande performance d'acteur, Idriss Elba?
I think what... makes a great performance.
Une grande performance, pour moi, c'est quand le public ne sent pas que c'est une performance. Et ça, ça demande une implication maximum à l'acteur pour à la fois transporter le public et disparaître dans son rôle.
Et comment vous faites? Comment on fait?
C'est un mélange de plusieurs choses. L'histoire, la direction d'acteur, le personnage. Mais aussi, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez changer votre apparence et moduler votre voix. Tout cela participe, il me semble, à une grande performance.
Dans cette quête d'effacement, quel outil est-ce que c'est le corps, Idriss? Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le vôtre, on va pas se mentir, est quand même assez imposant. Difficile de le faire disparaître.
C'est un obstacle, dans le sens où, si je dois jouer un personnage décrit comme fragile, il faut que je trouve le moyen d'exprimer cela avec le corps que j'ai. Ça demande une certaine discipline, une certaine expérience, une maîtrise.
D'autant que plus on est connu, et plus c'est difficile de disparaître, non?
Ça c'est vraiment une des choses les plus compliquées. Mais ça représente aussi un pari. C'est stimulant. Les gens connaissent mon nom, ma voix. Si jamais je joue avec un accent, ils vont l'écouter attentivement pour voir comment ça passe. Et c'est là que vous jouez avec votre expérience, avec votre investissement. Meryl Streep, c'est une de mes actrices préférées, et elle disparaît derrière ses personnages. À tous les coups, je ne vois plus Meryl, je ne vois que son personnage.
Au fond, et c'est peut-être le plus important, qu'est-ce qu'on ressent quand on disparaît, Idriss Elba?
C'est comme sortir de son propre corps quand on disparaît derrière le personnage. C'est comme prendre un pas de côté et s'observer soi-même. Pour ce personnage, le djinn, ça m'a passionné vraiment de devoir apprendre ou même créer la langue dans laquelle il s'exprime. Quand il se parle à lui-même, c'est une langue qu'on a créée, George et moi, avec Suzanne Doherty, qui est linguiste spécialisée dans les dialectes. On se demandait, mais comment il parle? Si vous me demandez de vous le refaire là, je pense pas que j'y arriverai. Je suis sorti de mon propre corps.
Ça prend combien de temps?
Ça prend du temps. Mais si demain, George me dit « Ah, il faut qu'on retourne une scène dès demain », j'appuie sur le bouton et j'y arriverai.
On va en reparler juste après. Ce clin d'œil à un rôle derrière lequel vous serez peut-être un jour amené à disparaître. Qui sait, je veux bien évidemment parler de Bond. James Bond, Adèle, Skyfall en 2012. Vous êtes sur France Inter avec Idriss Elba. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So
Inter. Boomerang, en direct du Festival de Cannes.
Flash, photographe, starlette qui stampe les pieds dans l'eau.
Alors parmi toutes les choses que j'ai pu entendre sur lui, et Dieu sait s'ils sont murmures, des choses dans le couloir du Palais des Festivals, avec ou sans Eva Bétan, il y en a au moins une d'exacte, il est pas mal. Quelque part, entre le roi Salomon, Zeus et le mage Balthazar, le sourcil rubis sur l'ongle, l'œil qui frise, le sourire Colgate, avec son t-shirt noir ce matin, le comédien Idriss Elba, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour 3000 ans à t'attendre, le film de George Miller où vous jouez un djinn, Idriss, c'est-à-dire une sorte de génie qui se réveille après avoir passé 3000 ans dans un flacon. Alors au départ, il ne parle pas anglais, mais une langue très ancienne, vous le disiez. Et ce qui frappe dans votre interprétation, c'est bien la voix que vous lui donnez. En quoi incarner un personnage, je me suis demandé, c'est d'abord lui trouver une voix.
Ouais, ouais. La voix du personnage, c'est essentiel. Le ton dans la voix. C'est très important. Il y a des gens qui ont une jolie voix, mais si le ton est faux, toute la musique de la voix, tout l'univers du personnage sonne faux. Il faut trouver le ton. Là, ici, dans cette pièce, on a une réverbération naturelle, on l'entend. Vous avez dit aux auditeurs qu'on est à Cannes, et ils entendent Cannes. Ça passe par le son. Le ton de ma voix s'adapte à ça. Et votre voix, à vous, elle sonne bien ici. Mais dans un studio, elle sera très différente.
On peut entendre la Ferrari que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Et puis, il y a l'accent aussi. Que raconte un accent pour vous, particulièrement dans la langue anglaise?
C'est variable. Quand vous m'avez parlé en anglais, cet accent français, pour moi, ça raconte... C'est très élégant en anglais. C'est chaleureux, c'est engageant.
C'est mon métier, ça. C'est pas vrai.
Si, si, vous êtes chaleureux et accueillant. Mais un accent... C'est comme une fenêtre sur la personne. C'est très important pour vraiment comprendre quelqu'un.
Votre accent à vous, par exemple, qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il met à jour?
Mon vrai accent? Mon vrai accent, c'est un mélange de plusieurs choses. La langue vraiment d'origine dans laquelle j'ai grandi, je l'ai refoulée un peu. Là, je vous parle avec un accent un petit peu modifié, parce que je suis comédien, je veux avoir une belle voix et bien parler, et j'ai conscience de tout ça. Quand je fais de la musique, j'ai un autre accent, parce que j'ai conscience des vibrations que je veux transmettre.
Mais dans quelle mesure êtes-vous une personne différente en fonction de l'accent que vous prenez ?
Un petit peu différent. C'est un cliché aussi. Ouais, vous les acteurs, chaque jour vous êtes quelqu'un d'autre. Mais moi je suis tout le temps moi-même. Simplement je suis conscient que ma voix, qui est mon outil, est malléable.
Et l'accent de vos parents? Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il révèle?
C'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a un petit peu d'anglais, d'Angleterre qui s'est immiscé. Mais l'accent de ma mère, c'est typiquement l'Afrique de l'Ouest.
Votre mère, Idriss Elba, vient du Ghana, votre père du Sierra Leone. Ils se sont installés en Angleterre peu de temps avant votre naissance, au début des années 70. Quel lien est-ce que vous entretenez avec le continent africain, vous, aujourd'hui?
Un lien très important, très fort. Je reste proche de la famille que j'ai au Ghana et en Sierra Leone. J'ai tourné plusieurs films en Afrique et je continue, j'en ai envie. Mon lien s'intensifie en fait. J'ai 50 ans cette année et j'ai vraiment envie de partager mon expérience que j'ai appris pendant ces 50 années et d'en faire profiter l'Afrique, son cinéma, son esprit d'innovation, son système d'éducation. Je veux que la jeunesse d'Afrique se rende compte de sa force, de sa valeur. Et je commence à comprendre que je peux être utile à la jeunesse africaine.
Ça veut dire créer des écoles de comédiens, d'acteurs, ça veut dire jouer tout simplement dans des films africains?
Oui, mettre en place une industrie du cinéma, un univers professionnel, promouvoir l'Afrique comme un lieu de tournage pour les productions internationales. Ne pas y tourner que des films africains, mais des films. On trouve là-bas des gens qui ont vraiment envie de travailler, qui ont la passion du cinéma, mais il n'y a pas de salles. Il n'y a pas beaucoup de salles. Pour moi, c'est l'occasion d'aider à une renaissance du cinéma. Comme en Occident, le cinéma, on le célèbre, et c'est une culture partagée par tous. J'ai envie de reproduire ça à grande échelle en Afrique.
Mais comment s'explique la non-reconnaissance du cinéma africain, que vous connaissez bien et dont vous parliez, que vous connaissez depuis votre enfance?
Mais il existe une reconnaissance. Simplement, elle n'est pas à l'échelle des films. Mais voyez, en Angleterre, le cinéma français, il n'est pas aussi reconnu qu'en France.
C'est vrai.
Et le cinéma africain n'est pas aussi reconnu dans le monde qu'il est au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sierra Leone. Pour moi, il y a les films américains qui sont partout dans le monde. Les films coréens commencent à être vus partout aussi. Et je pense que la même chose peut arriver au cinéma africain.
Cette année, vous l'avez forcément remarqué, aucun réalisateur africain en compétition pour la Palme d'Or. Que l'Afrique soit représentée dans un festival comme le Festival de Cannes, en quoi c'est quelque chose qui compte pour vous?
Écoutez, il faut beaucoup plus d'implication du public africain, des réalisateurs africains. Il faut qu'ils comprennent que les festivals Cannes, Sundance, Tribeca, Londres sont des lieux d'expression pour le cinéma africain aussi. Je le vois bien, les réalisateurs doivent se fixer ces festivals comme objectif. Et dans le même mouvement, les festivals doivent ouvrir la porte et être accueillants pour ces films. C'est là que des gens comme moi ou de jeunes acteurs originaires du continent peuvent agir, tourner des films en Afrique, qui trouveront une reconnaissance dans ces festivals.
Je vous ai parfois entendu dire qu'il fallait que les Africains deviennent maîtres de leurs récits, qu'ils racontent leurs histoires. Raconter une histoire, au fond, quel pouvoir est-ce que ça nous donne, Idriss Elba?
Quand on parle d'histoire venue d'Afrique, je crains que les gens ne pensent au continent qu'en lien avec la pauvreté, la famine, la guerre, la destruction. Quand on parle de notre peau, on dit les Noirs, mais cette couleur, elle a aussi une connotation négative. Et ça, c'est un schéma qu'il faut changer. Et comment y arriver? Par la force des histoires que nous avons à raconter. Nous le savons bien, le berceau de l'humanité, de la civilisation, c'est l'Afrique. C'est un fait. Aujourd'hui, l'Afrique, elle n'apparaît plus comme ce berceau de l'humanité. C'est l'endroit le plus sombre de notre monde. Et tout ça peut changer en racontant des histoires qui bouleverse cette idée reçue. Il faut parler de l'Afrique différemment. Les jeunes aujourd'hui qui sont retournés s'installer en Afrique, qui ont monté des entreprises, qui travaillent dans l'administration, voilà les gens qui peuvent renverser la table. Et je crois que c'est très important. J'ai l'impression, même si moi j'ai déjà tourné pas mal de films en Afrique, j'ai envie de consacrer plus de temps et plus d'énergie et mettre toute ma voix au service du cinéma africain.
Au fond, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes acteur et que vous portez ces histoires.
Peut-être. Quand j'ai appris mon métier d'acteur, il y avait très peu de comédiens d'origine africaine qui avaient de la visibilité. Si je peux, moi, être parmi ceux qui changent la donne du cinéma africain, alors je suis prêt.
Merci infiniment, Idriss Elba, d'être venu faire un tour dans Boomerang, et merci à votre traducteur, le délicieux Harold Manning, ce matin. Je rappelle que 3000 ans à t'attendre de George Miller avec l'incomparable Tilda Swinton vient d'être présenté hors compétition ici à Cannes, et qu'on attend avec impatience sa sortie dans toute la France. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Thanks, man. Really great.
Merci, merci à vous. Super interview.
Clara Luciani, il est 9h40 sur France Inter, et amour toujours pour Sonia De Villers à l'instant M, et pour Nelson Montfort, pour un Roland Garros exceptionnel la première semaine, Sonia.
J'en étais sûre, Augustin.
Ah bah attendez, moi je suis trop content, Nelson le polyglotte.
Faut choisir. Salut Augustin, nous connaissons un
salut
petit peu.
Salut Nelson.
Bonjour Augustin.